Vous écoutez
Serial Causeur.
Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, votre podcast série. On approche doucement de la fin de saison déjà, mais il y a quand même des séries qui ont émergé et on vous aide évidemment à faire le tri du haut de notre Watchtower. Avec moi, Aki.
Bonsoir.
Stéphane.
Hello.
Et Maxime.
Yo.
Quelle série fallait-il voir durant ce printemps ? On commence par la série qui a mis d'accord tout le monde, sauf moi évidemment, c'est Girls Five Ever. Depuis le 6 mai sur Peacock, c'est écrit et créé par Meredith Scardino qui a bossé sur le SNL et sur Kimmy Schmidt. Qu'est-ce que ça nous raconte, Stéphane ?
C'est la vie... Non, la vie, je sais pas, c'est un peu compliqué. Non, c'est le retour d'un girls band sur le devant de la scène parce qu'elles ont besoin de thunes et parce qu'elles s'aiment quand même malgré tout et qu'elles ont envie de retrouver le succès.
Et c'est avec qui ?
Sarah Bareilles, Renée Elise Goldsberry et Busy Phillips, et j'oublie le nom, Laura Pell.
Paula Pell.
Est-ce que c'est bien ?
Et c'est génial ! C'est génial, voilà.
Ah, je suis désolée, mais je pourrais pas m'en empêcher de dire « Gonna be famous forever ».
Très bien.
Voilà.
C'est vraiment très très bien. Franchement, moi j'y allais un petit peu à reculons en vrai. Enfin, je sais pas, ça me tentait pas du tout cette histoire. J'ai l'impression que c'était un peu du revu. Et en fait, c'est tellement drôle. Mais je pense que c'est la seule série de l'année où j'éclatais de rire devant.
Ah oui.
Mais
oui.
C'est surtout parce qu'on retrouve aussi, moi, je trouve beaucoup l'humour de Tina Fey.
Oui. Complètement du Tina Fey. Honnêtement, voilà. Le côté productions... sketch absurde, mais en même temps, ça marche, quoi. Ouais. C'est complètement sortie rock pour moi. Enfin, l'humour de sortie rock.
Ouais. Tout à fait. Ça aurait pu être une série dérivée de sortie rock, ce serait pas complètement déconnant, tu vois.
Oui, parce que le personnage de Busy Phillips ressemble quand même vraiment beaucoup à celui de
Jenna.
Ouais. Ouais. Enfin, c'est pas un copier-coller, mais on y est quasi, quoi.
Ouais. Donc, bon. Mais du coup, ça se joue en sa faveur et en sa défaveur, puisque le style de sortie rock, beaucoup ne l'aiment pas, en fait. Donc, c'est un style qui est assumé, quoi. En revanche, en tant que, je tiens à le dire, en tant que fan de comédie musicale, évidemment, revoir Sarah Bareilles et Renée Elise Goldsberry, mais c'est genre à un moment, mais vous vous rendez même pas compte, mon cerveau a explosé, en fait. Et ça, c'était ouf. Et c'est un peu dommage, bien sûr, qu'elle ne chante pas plus, même si, en vrai, elle chante déjà un petit peu, hein, donc c'est sympa. Oui. Mais ouais, c'est un peu dommage ce côté-là. Et les chansons sont aussi sympas que Crazy Ex-Girlfriend, je trouve. Je tenais à le dire quand même.
Oui, c'est vrai. Elles,
dans les paroles, je veux dire.
Elles sont complètement barrées, ouais.
C'est pas dans le même genre, dans le sens on attaque un problème de front, mais c'est vrai que les chansons ont des airs un peu stupides de hits de
pop commercial, quoi.
Voilà, des années 90, quoi. C'est le résumé des années 90. Hein.
Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'elles arrivent à dire quand même quelque chose, à faire passer un petit message, je sais pas, un peu féministe, mais sans être non plus, cryptique. Et parfois, oui, elles parlent de choses que je trouvais intéressantes.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'évolution. Donc, on suit le groupe dans les années 90 et le groupe, enfin, même je dis les années 90, je suis peut-être un peu cruel parce que je crois que c'est les débuts des années 2000. Mais, et jusqu'à aujourd'hui, et on voit quand même l'évolution du monde de la musique, quoi. Enfin, du groupe complètement décérébré qui chante des chansons complètement stupides et vraiment pas féministes du tout, à la réalisation des femmes d'aujourd'hui qui ont presque 50 ans et qui se disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu chanter comme une débilité profonde pour tout ça, pour faire plaisir, quoi. Enfin, c'est... Il y a une confrontation des deux mondes qui est quand même plutôt pas mal bien écrite.
Ouais.
Moi, mon seul hic sur la série, c'est quand même c'est la vie de famille de Dawn, Sarah Bareilles.
Oui, que je trouve chaud.
C'est un peu décalé, en fait, par rapport au reste. Et même si je vois un peu l'intérêt... dans le sens où il faut quelque chose de plus terre-à-terre pour que ça parte pas totalement justement en suite de sketch. Au final, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Donc, je serais assez intéressé de voir sans cette partie-là, parce que son mari, on s'en fout. Enfin, il est fan.
Non, mais l'arc sur le potentiel enfant, c'est chaud.
Ouais.
Franchement, cet arc-là, j'étais... What ? Pourquoi avoir fait ça alors que deux secondes avant, vous parliez trop bien de la charge mentale presque ? Mais la chanson de New York Lonely Boy, là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je l'adore, quoi. On aurait dit une chanson de Good Fight, d'ailleurs, tiens. Franchement, ça m'aurait pas étonné que ça sortait de The Good Fight.
Mais les clips musicaux, moi, je voyais du SNL plus. Enfin, vraiment, je voyais Kristen Wiig, Maya Rudolph, Tina Fey. Voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien.
Alors, moi, j'ai une question. C'est maintenant, pourquoi, Tom, tu n'as pas aimé? Parce que tu vois...
Non, mais en fait, devant votre consensus, évidemment, je me suis dit, allez, on va regarder. J'ai bien aimé le côté... en fait, vraiment, le tout début qui nous ramène donc ce girls band par rapport à un rappeur qui reprend un sample. Donc, je dis, tiens, c'est bien, ça...
C'est malin.
Plutôt réaliste. Ouais. Mais en fait, on abandonne tout de suite ce côté-là pour se concentrer donc sur la vie des quatre. Et en fait, oui, c'était frais, c'était, je dirais pas drôle, parce que je n'ai pas trouvé ça très, très drôle, mais je pense que ça se rapproche de l'humour de Saved by the Bell qu'ils ont refait sur Peacock, justement, c'est exactement le même type d'humour.
Non.
Et en fait, c'est des blagues qui arrivent comme ça, sans raison, et au bout d'un moment, c'est agaçant, en fait, ce rythme-là, et cette ambiance-là, un peu hystéro, et...
Tu dis ça parce que ce sont des femmes, c'est ça?
Non, mais au bout d'un moment, voilà, au bout du quatrième, cinquième, j'ai trouvé ça, c'était plus aussi intéressant, en fait. J'étais plus dedans, voilà, ça m'intéressait plus. J'étais pris dans le truc au début, mais au bout d'un moment, je fais non, c'est bon, ça m'épuise un peu, quoi.
Ah bah, heureusement que la saison ne fait que 8 épisodes, alors.
Hein. C'est clair. 9, du coup, 8, 9.
Alors que c'est trop peu, au final, je trouve.
Oui, c'est clair.
Ouais, moi, je suis d'accord.
On voit qu'ils fraudent. On voit qu'ils sont en train de se roder. J'en discutais sur Twitter sur les sitcoms et elles ont toujours besoin de première saison assez longue pour se roder. Enfin, on le voit par exemple avec The Office et Parks and Recreation. Les 6 premiers épisodes, la première saison, c'est pas ça, quoi. Et tout le monde est d'accord avec ça.
Mais après, Renée Elise, elle est formidable.
Ah, oui. Elle est incroyable. Elle est malade. Elle est incroyable.
Mais elle a une énergie folle. Après, c'est...
Oui. D'ailleurs, je comprends pas que cette femme n'ait pas
plutôt. Ouais.
Enfin, déjà dans The Good Wife, je trouvais qu'elle avait un super rôle et
une présence de ouf.
Ouais, et j'étais un peu déçu de la voir que dans ce rôle de guest un peu ou de personnage secondaire. Et là, vraiment, mais pardon, elle vole la vedette à tout le monde dès qu'elle apparaît. C'est génial.
Ah,
elle a chanté un petit peu dans Zoé, mais trop peu, quoi.
Oui. Bah,
son rôle dans Zoé n'est pas terrible, quand même, hein, au contraire.
Ça se voit que c'était un guest, elle s'est bien amusée. Ça, ouais. C'était ça, quoi. Petite mention pour Ashley Park, quand même, son personnage, c'est drôle, quand même.
Mais moi, pour le coup, il me tarde de voir la saison 2, hein, mais voilà.
Oui.
Mais...
oui, c'est vrai qu'ils ont été.
Vous pensez qu'il y aura une saison 2 plus. Enfin, qu'il y aura. Non, mais qu'il y a matière à faire une saison 2.
Oui, parce que là, en plus, avec leur twist de fin, enfin, semi-twist, ils sont...
Enfin, c'est quand même une phrase balancée en l'air. On ne sait pas si c'est pris au sérieux ou pas du tout. Et puis, on verra ce qu'ils nous pondent.
En vrai, j'ai l'impression que c'est quand même là qu'ils veulent aller en saison 2.
Bah, moi, je me suis posé toute la question pendant le truc. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, donc comme après...
donc là, ils partent dans un truc... plutôt soap, et je me dis que ça peut être super intéressant.
Et donc, c'est sur Peacock. Je ne sais pas si ça arrivera en France un jour, mais... Mmh. On passe toute autre ambiance avec The Underground Railroad. Évidemment, ce n'est pas du tout la même ambiance. C'est sur Prime depuis le 14 mai. C'est créé et réalisé par Barry Jenkins, basé sur un roman de Colson Whitehead. Qu'est-ce que c'est, cette série, Maxime?
Comme tu viens de le dire, c'est une adaptation... en gros, c'est l'histoire de deux esclaves qui se barrent de leur plantation. Parce que je ne sais pas pourquoi ils en ont marre.
Ils ont peut-être marre d'être esclaves, en fait, tout simplement.
Et d'être martyrisés, d'être violentés, oui.
Alors, ça s'appelle l'humour. Ça s'appelait l'humour.
Pardon.
Ne vous inquiétez pas, on vous apprendra avec vous. Et en gros, ils utilisent un chemin de fer souterrain qui est la représentation dans la série, plus ou moins, de quelque chose qui a existé. Un réseau clandestin pour faire s'échapper les esclaves dans les états où ils pouvaient être libres. Et on suit pendant 9 ou 10 épisodes, je ne sais plus,
10.
Je ne suis pas encore arrivé au bout. On suit le parcours de notamment une des esclaves et aussi des chasseurs d'esclaves. Et c'est génial. Enfin, franchement, moi, je me prends une claque à chaque minute de chaque épisode. Je trouve ça assez dingue, la réalisation de Barry Jenkins. Ok, c'est génial. Pourtant, j'aimais pas trop ses précédents films. Enfin, Moonlight m'a laissé un peu.
Mi-figue, mi-raisin.
Ouais, voilà. et Beale Street un peu pareil. Enfin, je trouvais que ça manquait de. Mais là, enfin, franchement, à chaque fois, il arrive à mettre en valeur ses acteurs, à ses décors, parce que les décors sont dingues. Les reconstitutions, je les trouve folles. Enfin, le chemin de fer souterrain, on en voit peu, mais au final, c'est super intrigant et super bien fait. Je trouve ça ouf.
Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord?
Bah, moi, je suis d'accord aussi. J'en ai pas vu beaucoup parce que c'est quand même très intense. Hein, la violence psychologique, il faut quand même la pouvoir la supporter de manière... Enfin, c'est pas un truc que tu vas binge-watcher ou alors il faut pas être bien dans sa tête.
Ok. Je me sens concernée du coup.
Ah ouais, moi je peux pas. Honnêtement, en plus les épisodes durent plus d'une heure et c'est du costaud. Enfin, le premier épisode.
Justement, en fait, j'étais vraiment dedans et je l'ai fini en une journée quoi.
Ouais, d'accord, ok. Bon, moi personnellement, je peux pas. Donc, je crois que elle va me durer quand même 10 semaines. Mais non, c'est vraiment très bien. La réalisation de Barry Jenkins est quand même complètement dingue, comme l'a dit Maxime. Et les acteurs, waouh.
Ah oui. Révélation, ouais. La petite.
Celle qui joue Cora, dont j'ai oublié.
Celle qui joue Cora, bah parce que c'est pas Tousoum Nedou, enfin, c'est.
Voilà,
c'est on l'a pas vu non plus ailleurs, quoi. Elle est incroyable.
Elle leur a donné un matériel qui est juste complètement dingue et ils en font un truc, une œuvre, c'est fou. C'est fou. De toute façon, tout est fou dans cette série et ça le sera, à mon avis, jusqu'à la fin, quoi. Mais.
Oui, mais c'est chaud. Franchement, je suis d'accord, c'est vraiment intense, il faut vraiment s'accrocher. Et j'ai pleuré plusieurs fois, évidemment, hein, parce que bon, c'est fait pour en même temps. Et aussi, le mec du début, quoi, celui qui joue César, il est aussi très bon, en vrai. Parce que non, mais dans le trailer, tu vois Chidi, enfin, l'acteur qui joue Chidi. Hein,
ah oui,
non,
oui,
c'est pour ça que je ne parle pas de Chidi, mais de l'autre, quoi.
D'accord.
Ouais, il a une présence aussi, c'est vraiment cool. Et en fait, déjà, historiquement, tu apprends pas mal de choses, même si, ok, ça reste de la fiction, bien entendu, on prend les choses avec des pincettes. Mais... c'est super intéressant, tout simplement. En revanche, je mets quand même un bémol. Pour moi, le orange et le vert, la coloration des images, non. Voilà. Non, c'est trop. Trop, c'est trop.
Ah ouais, j'ai pas trouvé ça ostentatoire.
Ah ouais, off.
Mais il offre quand même des plans d'une folie.
Ah ouais.
C'est des
peintures,
quoi.
Oui, je suis d'accord.
Voilà. Est-ce que c'est pas la première grande série de Prime Video?
C'est bien possible.
Non. Oh non. Mais non, arrêtez. The Expanse, quand même.
Mrs. Maisel, mais bon, après, voilà, quoi.
Oui.
Non, mais Mrs. Maisel, c'est une série que je n'aime pas, et The Expanse, je n'ai pas regardé. Donc,
voilà.
Pour moi, c'est la première grande série. Et en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vraiment une série. Ce n'est pas un long film de 10 épisodes.
Oui.
Clairement.
C'est
vraiment...
C'est marrant que tu dises ça, parce que, justement, les avis disent toujours encore une fois que c'est juste un très long film, quoi.
Ah ouais, alors...
Et genre, c'est le plus cinématique des séries Amazon, en gros.
Parce que là, il y a un twist de fin à chaque épisode. Enfin, pour ceux que j'ai vus, en tout cas, pour le moment, t'as envie d'y revenir, même si tu sais que tu ne peux pas, parce que pour moi, je suis comme Stéphane, je suis incapable de les enchaîner, tellement je suis traumatisé à la fin. Mais en plus, c'est pas traumatisé à la manière The Handmaid's Tale. Je sais pas si on y reviendra plus tard, mais j'ai vu un peu cette critique sur Twitter passer, et même dans des articles, que c'était un peu du trauma porn ou du torture porn, enfin voilà, ce type de série. Et moi, je trouve pas, enfin, je trouve que la violence, de tout ce qu'on en voit dans les cours d'histoire, dans les documentaires, c'était ça, quoi. Enfin, c'était pas le Club Med juste et pas rémunéré, hein. Je n'imaginais pas ça autrement, voire peut-être même pire, quoi.
Bah ouais. Mais vraiment, au début, je m'étais vraiment dit, mais en fait, c'est un film ou quoi? Et non. Donc c'est pour ça que quand tu dis qu'il y a un cliffhanger à chaque fois, pour moi, ça reste comme... Ça peut être une fin interprétée comme une fin ouverte de film, en fait.
Oui, mais au fur et à mesure des épisodes, je vois par exemple le numéro 4, je crois, où on voit le chasseur d'esclaves, la naissance en fait, du chasseur d'esclaves en tant que tel. Et quand tu raccroches les wagons, tu te dis, ils essayent quand même de dire autre chose que ce qui se passe sur le moment et d'étoffer leur personnage. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne vraiment comme une série, même si je suis assez d'accord avec toi, surtout le premier. On a l'impression que tu peux terminer là et c'est bon.
D'ailleurs, c'est une belle surprise de voir Joel Edgerton jouer le chasseur d'esclaves.
Surtout après Loving, quoi. J'étais complètement
Je m'attendais pas à le voir là, et franchement, et surtout son duo avec le petit garçon, ils sont mignons tous les deux.
Leur duo, c'est la vraie bonne idée, je trouve.
Oui.
Ce petit gamin.
Même si je trouve qu'on n'en comprend pas trop par rapport au point de vue d'Homer, justement. Enfin, je trouve que ça aurait pu être plus étoffé, ça. Mais bon.
Et donc, c'est sur Prime, disponible depuis le 14 mai. Autre ambiance encore, The Nevers, la fameuse série créé par Monsieur Joss Whedon, qui est donc sur OCS depuis le 13 avril. À qui ? Qu'est-ce que ça donne, cette série ?
Bah, je sais que là, les avis sont plus mitigés, mais honnêtement, moi, je voulais pris ça comme un divertissement d'action et ça marche bien pour moi. Voilà. Mais oui, je me pose pas trop. En plus, le premier épisode, je l'ai trouvé très noir dans le sens où je l'ai pas trouvé beau, enfin, joli à regarder. Et ensuite, je trouve que ça s'améliore beaucoup et puis c'est un peu créatif et puis j'aime beaucoup les personnages. J'en demande pas plus, quoi. Ok, ça va pas me rester... Enfin, ça va pas... avoir autant d'impact que ses œuvres précédentes, bah, surtout vu comment ça s'est passé.
Non, tout dépend de la deuxième partie de la saison. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Mais bon, après...
parce qu'il s'en va, il s'en va à la première partie, au bout de six épisodes.
Oui, c'est-à-dire que le sixième épisode est quand même un gros point de bascule qui te...
Il est ouf,
l'univers
le sixième.
D'une manière pas possible. Et,
oui.
Et surtout, après, Whedon n'est plus là en tant que showrunner. Donc, tout se jouera sur les six épisodes 7 à 12, et voilà, quoi.
Mais honnêtement, je l'avais pas vu venir. On te spoile pas, du coup, Maxime, on te spoile pas.
La deuxième partie de saison, c'est une vraie deuxième partie de saison dans le sens où ça va revenir dans pas longtemps, ou c'est une fausse deuxième saison?
A priori, c'est ils l'ont vendu comme une deuxième partie de saison.
Oui, c'est vrai qu'il y en a que 6 pour l'instant.
Et le départ de Whedon a tout basculé, quoi. Okay. Ça aurait dû être 12 épisodes et ils ont dû prendre le temps. Philippa, la nouvelle showrunner, elle a dû retoucher un peu, s'adapter, se prendre son truc et voilà, quoi. Mais bon.
Justement, moi, j'ai beaucoup aimé la série. Enfin, les gros avis négatifs que je voyais passer, j'étais pas forcément d'accord. Enfin, Stéphane, on en avait discuté. Mais pour moi, mon gros souci avec la série, c'est que leur univers, on ne le comprend pas. On sent qu'ils se sont mis au format, Whedon et son équipe, les pauvres. Se sont mis au format HBO, alors que très clairement, c'est pensé comme un format 40 minutes.
Une série classique.
Ouais, un format 40 minutes où tu découpes les intrigues en deux épisodes à la limite. Et comme dans les grandes heures de la télé où on avait toujours le double épisode de début ou de fin de saison ou de milieu de saison, enfin bref. Et là, ça me fait l'effet de ça à chaque fois. J'ai l'impression que les histoires, elles sont là, elles sont bonnes. L'univers, il est super intéressant. Ce côté steampunk avec, j'ai plus son prénom, mais celle qui joue avec l'électricité. Je trouve ça vraiment novateur à la télé, on le voit peu. Et à côté de ça, il te colle une intrigue où les épisodes démarrent aux trois quarts, où il y a vraiment beaucoup trop d'exposition et pas assez de... Enfin, même
si c'est
même pas
de l'exposition.
Oui, il n'y a pas assez d'action. Et en fait, au final, tu comprends pas tous les personnages. Ils restent super intrigants. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs d'écriture quelque part. Je ne saurais pas trop dire où. Mais ce qui fait qu'à chaque fois, l'épisode, je le termine, je me dis, ouais, enfin, pas tout ça pour ça, mais ouais, c'est sympa, mais j'y reviendrai pas forcément. D'autant plus, l'épisode, mince, c'est là où je me suis dit, merde, je suis en train d'être d'accord avec Stéphane, ça m'emmerde. L'épisode où elle chante, ils l'ont retrouvée, elle chante et elle se... Désolée pour le spoiler, mais elle se fait tuer. Et je me suis dit...
Ouais, ça, je suis d'accord.
Je me suis dit, en fait, t'as ce climax, mais tout le reste, t'as rien vu venir. Enfin, t'as de la préparation pour un climax, mais ça semble décorréler l'un de l'autre. Donc, enfin, je sais pas.
Il me tarde vraiment que tu regardes le sixième épisode parce que tu me tardes de ton débrief, hein, honnêtement. Okay. Parce que...
et ça raconte quoi, du coup?
Ben en fait, alors on va te laisser Maxime le raconter parce que au final, c'est vraiment l'épisode 1 à 5 et l'épisode 6. Okay. C'est plus du tout la même chose. Donc, voilà.
Donc là, l'épisode 1 à 5, en gros, c'est deux femmes dont l'une a des super pouvoirs. Enfin, on les appelle.
Tout le monde a des super pouvoirs. Ouais. Ils ont des dons.
Mais elle joue pas avec l'électricité. Genre, elle est pas genre super intelligente. C'est vraiment.
Avant, elle était pas, mais c'est maintenant.
Elle dit qu'en gros, elle voit où est-ce que l'électricité va et du coup, elle comprend comment les choses marchent.
Ah ben, tu vois, ça, je l'ai pas assez.
Enfin, c'est pour ça qu'elle crie. Mais non, mais...
Il faut dire que c'est au 19e siècle, attention.
Oui, ça se passe à l'époque. Hein,
ouais. Elle est victorienne. Ouais.
J'avais l'impression que c'était juste quelqu'un de super intelligent et qui créait...
Oui, mais c'est pas venu comme ça, c'est venu grâce au truc qui lui vole dans la gueule.
À son don. Elles ont été touchées.
C'est quoi? C'est 2-3 ans auparavant, ces dons sont apparus. Toutes ces femmes, parce que ça touche principalement des femmes, sont pourchassées, enfin, pas vraiment pourchassées, mais mises au banc de la société. Et t'as ces deux femmes qui recueillent toutes celles qui ont manifesté leurs dons pour, dans une grande école de...
Enfin, c'est un orphelinat.
Ouais, un orphelinat, mais c'est un peu une école. Elles sont là, elles vivent toutes en communauté, tout ça. Bref. Et c'est aussi l'histoire des personnes qui les chassent, notamment des messieurs moches.
Et qui sont au pouvoir surtout. Ouais.
Oui, non, mais ceux qui ont un visage chelou.
Ouais, t'as les conservateurs et les monstres en gros. Voilà. Moi, je dis ça comme ça.
Alors, c'est exactement ce que je reproche à la série. On ne comprend absolument rien. T'as des gens qui viennent de on ne sait pas où, qui font on ne sait pas quoi, et c'est un flou artistique.
Mais
total.
T'as pas besoin de comprendre au début. Tu devines que, ok, les politiciens, ils sont contre eux parce qu'il y a du changement, et là on suit le côté conservateur, donc ils veulent garder ce sont des réas qui veulent, ils sont contre le changement, plus ça on est d'accord. Et après t'as les monstres, tu sais pas effectivement s'ils sont reliés avec eux ou pas.
Il y a beaucoup trop d'acteurs qui font des trucs en sous-main, tu ne sais pas ce qu'ils font. T'es obligé d'avoir je vous jure, j'ai compris ce qui se passait dans la série en regardant les making of, parce que les acteurs, les personnages expliquent leurs personnages et leurs actions, et que les scénaristes sont là pour dire, alors il se passe ci, il se passe ça, lui a fait ci, lui a fait ça, et donc en fait c'est pour ça qu'il se passe ça. Si je n'avais pas eu ça, je ne veux strictement rien piper à cette putain de série.
Ah oui, pour moi ce qui m'a vraiment prouvé ça, parce qu'au début je comprenais, je me disais ok, on va dans cette direction, alors que pas du tout. Mais là où j'ai compris qu'en fait ils savaient pas eux aussi où ils allaient, ou alors ils voulaient garder trop de choses sous le pied, c'est quand elle se fait attaquer sur l'eau par un des monstres.
Ah oui. Oui.
Lui, il a le pouvoir de marcher sur l'eau, mais ça va réussir à le noyer. Enfin bref, il a un pouvoir chelou, on comprend rien. Il arrive, il essaie de la tuer, elle arrive par miracle à s'en sortir. Ok, très bien, c'est du Buffy, quoi. Et après, elle rentre chez elle, écouter une meuf chanter. Et elle, à aucun moment, elle ne... Non mais c'est ça, à aucun moment, elle ne questionne...
Ce qui vient de se passer,
voilà. Pourquoi il l'a attaqué, quel était son but, est-ce qu'il a des commanditaires?
Mais si, ça je suis pas d'accord. J'avais compris qu'en gros, elle avait déduit qu'il y avait un, et je crois.
Donc déjà ça va pas. Quoi.
Oui, y a un moment,
mais bien sûr, parce qu'en fait on est un peu du point de vue d'Amelia aussi, où on ne sait pas et on fait des suppositions.
Mais le problème c'est ça, c'est que si on était que du point de vue à elle, on ne verrait pas tous les hommes qui essayent de
manœuvrer.
Non, mais il y a beaucoup de choses, je suis d'accord.
C'est que pour moi, là, en fait, ils essaient de garder trop de choses sous le pied pour se dire, on va faire quelque chose de cryptique, on va faire confiance au public, il va regarder les indices et tout. Mais en fait, à un moment, il faut quand même expliquer quelques petits trucs, parce que...
Surtout que leur univers est quand même assez riche, et on te promet pas mal de choses dès la fin du premier épisode, et puis voilà quoi.
Moi je suis d'accord, bien sûr, hein. Tu peux pas dire, enfin oui, c'est clair que par exemple le personnage de James Norton et tout son arc, je suis un peu what the fuck, à quoi il sert en fait, à part être beau et être là, être nu, tu vois. Moi je m'en fous, mais bon,
ce qui est déjà pas mal.
C'est la caution nudité de la série, donc au bout d'un moment
c'est ça.
Mais voilà,
je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai, mais je trouve pas que ce soit dérangeant, dans le sens où je me pose vraiment pas de questions quand je regarde la série, tu vois.
Peut-être toi, mais pour le coup, moi j'essaye d'un minimum de comprendre ce qu'on m'apporte, et pour le coup ça n'a jamais été le cas sur les 6 heures que je me suis tapé.
Surtout si vous me dites que dans le 6e épisode ça renverse tout.
Ça veut dire que... mais au secours quoi, jamais de la vie tu penses à ça en fait.
Et là pour le coup j'étais bien content d'avoir le making of, hein, parce que vraiment j'en avais vraiment rien compris à ce qui s'est passé pendant les 5 premiers épisodes, hein, donc
pour le coup le problème c'est à quoi ont servi les 5 premiers.
Tu verras, parce que ça
quand même... les personnages quand même.
Dans ce cas-là, fallait qu'on passe plus de temps avec eux à les connaître, parce que moi j'ai pas l'impression de les connaître.
On va passer plus de temps à mon avis.
Ah oui, mais
ça
fait 6 heures, donc au bout d'un moment on peut pas leur donner tout le temps possible, quoi. On n'a pas le temps.
Mais je crois qu'en fait, je m'attendais à un truc tellement nul, je vous explique, genre vraiment j'étais un peu en mode oh là là, ça va être pourri et tout, que je suis hyper agréablement surprise par Laura Donnelly, que je trouve excellente dans son personnage, alors que honnêtement Outlander c'était pas gagné, vous voyez.
Ah oui, maintenant que tu le dis je la remets. Ah oui, c'est d'accord, c'est la sœur de Jane.
Et franchement j'étais l'imaginer en personnage d'action, jamais de la vie je l'imaginais comme ça, et au final je trouve qu'elle est très très bien dans son rôle.
Le problème c'est que les actrices sont bonnes, hein. Tous les acteurs sont bons, mais sauf qu'ils ont pas le... Enfin, eux aussi ils doivent nager à vue, hein. Ils reçoivent le scénario, ils disent ah ouais, ok, d'accord, mais je fais quoi, mais pourquoi fais ça, mais pff, ben voilà quoi.
Ça donne clairement cette impression, hein. Ah, je dois faire ça, ok, d'accord, très bien, je vais aller gagner ma croûte, mais le lendemain elle fait totalement autre chose, ou alors elle questionne pas du tout ce qu'elle a fait avant, tu fais ok, bon.
Moi c'est joli à regarder quand même, je tiens à dire.
Et encore, il y a du potentiel apparemment.
Oui,
mais c'est-à-dire qu'il faut se taper taper 5 épisodes d'une heure où c'est que tu comprends pas grand chose, au sixième pas comprendre grand chose, mais pour avoir de l'espoir pour la suite. Donc,
mais vous voyez, c'est ça, une profession franchement, de je me suis accrochée. Alors qu'il y a Irregulars, pour le coup, qui est sorti, je crois, un mois auparavant, enfin, même pas, peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant la sortie de Nevers. Et bah, franchement, j'ai regardé un épisode, mais ça m'a saoulé. C'est du teen, show, mais dans le mauvais sens du terme.
Oui, mais ça n'a aucun rapport.
Bah oui, mais ça se passe dans la même époque, tu dis, et puis c'est un peu le même genre, un peu pouvoir et tout. Voilà, c'est ça. Et en fait, vraiment, j'ai choisi, quoi, clairement.
Donc, The Nevers sur OCS. On va faire très court, parce qu'on a encore plein de séries. Donc, 2-3 minutes par série, pas plus, je compte sur vous.
Ouais.
Shadow and Bone sur Netflix, depuis le 23 avril, à qui ?
Bah, alors, pour être une lectrice de seulement Six of Crows, je n'ai pas lu Grisha. Je trouve que c'est une adaptation qui a voulu trop en faire. Et du coup, on perd tout, en fait. Alors oui, il y a des personnages qui sont appréciés. Je pense notamment à Inej et à Jasper, qui sont les fan favorites de tout le monde, je pense. C'est assez unanime là-dessus. Il y a des choses jolies à regarder en termes d'effets spéciaux, mais le cœur qui fait la force des Grishaverse, je trouve qu'il n'est pas là. Les enjeux politiques, on les perd complètement parce qu'on comprend rien. Les amourettes, ça devient des amourettes d'ados qui ne servent à rien. Et non mais et voilà, ah oui, et alors des personnages que j'aimais bien aussi dans Six of Crows, donc Nina et Mathias, leur arc, honnêtement, là en regardant la saison 1, leur arc ne sert à rien. Genre ils n'étaient pas là, ça aurait pas changé la série, en fait.
Oui, donc voilà. Ça sert à rien, quoi.
Voilà. Okay. Et ça, Maxime, je comprends pas pourquoi. Quitte à adapter, autant adapter en tu les vires, en fait. Déjà là, ils ont fusionné 2 œuvres en une, voilà, il faut faire des sacrifices, quoi. Bref,
Maxime,
voilà.
T'as lu les romans ?
Non, moi j'ai pas lu les romans. Du coup, je suis arrivé un peu en mode je ne connais rien de l'univers et de ce qui va se passer. J'ai su d'ailleurs que c'était une fusion de bouquins qu'après avoir vu les 8 épisodes. Et pour le coup, moi je me suis plutôt bien amusé. C'est pas parfait, hein. De toute façon, on est sur Netflix, donc le jour où on aura série parfaite, aussi il y a The Crown, excusez-moi. mais j'ai trouvé ça assez entraînant. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Il y a peut-être 1 ou 2 épisodes qui sont un peu plus faibles, notamment celui où elle doit suivre un entraînement dans l'école des Grisha. Celui-ci, j'ai trouvé un peu plus faible, mais au-delà de ça, ça reste quand même du bon divertissement dans un univers qui est intéressant. On comprend pas tout, on a l'impression qu'ils ont pas tout expliqué, pas tout... Enfin, je sais pas, par moments, j'avais l'impression d'être un peu perdu.
Ah oui, franchement, là, on comprend moins de choses que dans The Nevers, je trouve. Hein. Mais bon, je dis ça, j'ai rien.
Ah ouais, alors que pour le coup, j'ai trouvé ça plus lisible, juste de cette quête de pouvoir, cette quête de pouvoir et cette fille qui se révèle. Enfin, c'est un schéma ultra basique et c'est plutôt bien fait. Donc, pas de là à la recommander à tout le monde, mais j'ai trouvé ça plutôt cool.
D'accord. Stéphane, Rutherford Falls sur Peacock depuis le 22 avril, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une petite série qui veut nous parler de la relation, c'est très compliqué, avec la communauté indienne, native américaine, qui vit dans une ville qui s'appelle Rutherford Falls, et avec le d'inhéritier de mec qui a signé un pacte avec les Indiens en 1600 et des poussières. Et c'est plutôt intéressant parce que ça met en exergue quand même une partie de l'histoire américaine qu'on ne voit pas beaucoup à la télé. Donc c'était vraiment intéressant, c'était pas drôle, c'est un peu dommage pour une comédie, tu me diras. Et alors, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un problème avec Ed Helms, qui est donc le personnage principal de la série. Je ne sais pas si c'est Ed Helms qui a un souci pour jouer ou si c'est un problème de personnage qui choisit de jouer. C'est assez problématique parce que en fait le mec t'as juste envie de le frapper tout le temps, donc ça va pas. Mais tous les personnages secondaires, les natives américaines sont vraiment plutôt intéressants et se posent des bonnes questions et tu te questionnes beaucoup, donc c'est plutôt pas mal quoi, mais c'est pas drôle.
Oui, voilà. Je suis d'accord à 100% avec Stéphane, c'est voilà, désolé, c'est arrivé. Ouais, non, c'est vrai que l'humour fonctionne pas. Et c'est dommage parce que, moi, c'est un de mes dieux, hein. Et je trouvais qu'à chaque fois, ça fonctionnait.
Alors, il faut faire attention parce que Mike Church sert quand même beaucoup de prête-nom pour cette série. Hein, parce que c'est pas officiellement lui le showrunner. Hein.
Bah pour le coup, c'est peut-être ça le problème parce que c'est vrai qu'en termes de messages, de questionnements sur la société, il a toujours été très très fort. Et la preuve ici, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment intelligent. Et ça brosse personne dans le sens du poil. Donc, j'ai bien aimé. Mais après, là aussi où je te rejoins, c'est Ed Helms, qui pour moi est celui qui devrait apporter l'humour. Vraiment, le côté un peu absurde, un peu à la Leslie Knope, mais en mode vraiment gênant. Et ça fonctionne pas. Il est là, mais vraiment... Je trouve que toutes ces scènes, c'est à côté.
Enfin, mais c'est un peu comme si son personnage de The Office était parti s'installer à Rutherford Falls et que voilà quoi. Mais sauf que non, ça va pas quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Et ben, autre univers, Jupiter's Legacy sur Netflix depuis le 7 mai, adapté d'un comics de Mark Millar et Frank Quitely. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? À qui? Très bien.
Franchement, j'ai mis en fond quand je faisais autre chose, j'avoue. J'ai regardé d'un œil. En fait, algorithme Netflix, évidemment, quand je tombais sur ma page d'accueil, la bande-annonce se lançait. Et j'aimais bien la voix off de la bande-annonce. Donc, je me suis dit, bon, allez,
ça tient si peu. Ça tient si peu.
Oui, la vérité, oui. Et puis bon, j'aime bien, comment il s'appelle, Josh Duhamel. Josh Duhamel.
C'est Josh Duhamel.
Et d'où je me suis dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, je trouve que ça a zéro intérêt, en fait. Devines le plot twist dès le premier épisode.
Oui, clairement, oui.
Les gamins, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? En fait, il n'y a rien qui fait que je m'attache au personnage. Les pouvoirs ne sont pas dingues. Et mais aussi, on pourrait se dire, ouais, c'est un monde à la The Boys où, justement, il y a une véritable structure autour des super-héros. Et donc, forcément, ils vont avoir des enjeux, encore des conflits de pouvoir assez intéressants. Mais en fait, toute cette partie-là, limite, c'est mise en sourdine quand on s'en fiche. Enfin, il n'y a rien. C'est nul, en fait. Enfin, il n'y a pas d'enjeu dans cette série.
Non, mais parce que je me suis beaucoup renseigné sur le coup, parce que moi, j'étais agréablement surpris et agréablement agacé en même temps. C'est plutôt sympathique parce que ça, quand même, ça pose des questions sur le super-héros de 2020 avec le super-héros de l'âge d'or, donc les années 20-40. Et sauf que le problème, donc l'adaptation de ce comics de Mark Millar, il semblerait qu'ils aient adapté que les 20 ou 30 premières pages. Donc en fait, ils se sont gardés tous les trucs intéressants pour la suite, en vue d'une suite, d'ailleurs qui nous prépare avec le dernier, avec le twist comme on dit là qu'on voit venir depuis tellement évident.
L'épisode 1, on est d'accord.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas une adaptation, c'est un charcutage qu'ils nous ont fait et ils étirent des trucs qui mériteraient pas d'être étirés, toute la quête là pour arriver jusqu'au pouvoir.
Franchement, c'est le seul épisode où j'étais vraiment à fond parce que je me dis ça c'est sympa comme origin story. Mais le dilemme moral, je m'en fichais complètement, je peux vous le dire.
En fait, il y a un gros problème d'adaptation. Malgré tout, il y a des trucs intéressants, moi je trouve, pour le coup, qui questionnent le super-héros. À différentes périodes, donc parce que c'est pas le même, et puis ça a renvoyé quand même pas mal à Man of Steel avec Superman il a tué Zod et pourquoi il a fait ça alors que dans les comics il l'a jamais fait, et on te dit ouais mais c'est adapté à notre jour et c'est pas du tout la même chose et on peut pas se poser les mêmes questions vis-à-vis du super héros, il peut pas avoir les mêmes réflexions. Donc c'est ça qui était quand même, il y a quand même un truc sous-jacent qui est quand même plutôt, ça ressemble à du Mark Millar, donc on va pas se mentir, donc c'est plutôt intéressant, sauf que l'adaptation était à chier et je comprendrais que les gens ils se soient barrés au bout du deuxième ou troisième épisode quoi.
Moi je rejoins plutôt Aki pour le coup, même si quand Stéphane m'a dit regarde, dis-moi ce que t'en penses, le premier épisode est plutôt pas mal, trouvé engageant, les acteurs sont pas mauvais, hormis celle qui joue la fille, je me souviens plus de son prénom.
Ah non, elle est atroce.
Punaise, merci.
Ah ouais.
Oh là là. Elle est horrible.
Ah oui, c'est la dernière.
Chloé, c'est le personnage, j'ai oublié le nom de l'actrice, elle m'emmène mauvaise en fait. J'espère ne jamais la revoir. Leslie Bibb, c'est la mère.
Ah non, c'est la mère. Je sais pas, j'ai pas vu.
Ah non, mais elle ne l'a
rien. Je veux dire que Leslie Bibb, c'est pas une jeune femme. Enfin, désolé, mais.
Ne l'a réengagée jamais. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Et voilà. Et du coup, j'ai continué. Et en plus, pas comme toi, à qui j'ai pas regardé d'un œil, j'ai vraiment regardé tout très concentré. mais j'arrivais jamais à rentrer dedans. Je trouve que le dilemme moral du père, en soi, dans l'idée, il est intéressant. Est-ce qu'on doit tuer? Est-ce qu'on ne doit pas tuer?
Oui.
Enfin, voilà.
Qu'est-ce qu'être un super-héros en 2021?
Voilà, oui. Oui, mais même au-delà de ça, est-ce que le mal mérite qu'on l'éradique au point de lui ôter la vie?
Il faut s'abaisser à faire comme les méchants pour voilà, faire gagner la justice. Quoi.
C'est ouais. Ça, c'est intéressant, mais c'est intéressant pas aussi de manière aussi manichéenne. Là, c'est est-ce que mon fils est sur le point de mourir, est-ce que je vais tuer le méchant pour le sauver? Et le gars, il dit non. Et je trouve ça d'une stupidité. Enfin, tu peux pas raconter un truc aussi idéaliste. C'est pas possible. Bien sûr que quelqu'un à qui tu tiens va se faire tuer. La seule manière que t'as de le sauver, c'est de au moins tenter de tuer l'autre. Mais enfin, je trouve qu'il y a même pas de question là-dedans. Et ils en font le cœur de la série et ça marche pas. Ça marche pas.
Ben si, parce qu'il nous raconte quand même le traumatisme qu'il a vécu dans les années 20, mais on arrive à comprendre pourquoi il agit comme ça, mais sauf que c'est vrai, en effet, tu me diras, ça tient pas forcément la route. Quoi.
Rien voilà. Du tout.
Si ça avait été encore, je sais pas, comme vous dites, s'abaisser à faire le mal, enfin pas à faire le mal, mais à prendre des décisions limites moralement pour sauver les méchants, oui, là d'accord, ça fonctionne, mais par exemple la grande bataille où ils allaient tous se faire tuer et l'autre il est en colère qu'on l'ait sauvé, j'étais là,
oui,
mais...
Oui, c'est un peu stupide, oui.
Non, mais, allô.
Très bien.
Non, merci.
Merci,
non,
Nabila.
N'en jetons plus. Passons à la nouvelle grande série de la CW, Kung Fu, depuis le 7 avril, Stéphane. Est-ce que c'est un remake de la série d'origine?
Je ne peux pas le dire parce que je ne connaissais pas la série d'origine. Il semblerait que oui, mais si c'était le cas, elle aurait dû être sympa. Donc voilà. Mais non, c'est plutôt intéressant, je trouve. C'est le casting asiatique est vraiment bien. Moi, je les aime bien. Je les aime beaucoup. Ils racontent des choses vraiment de 2021 qui sont vraiment assez intenses. Il y a un épisode où, à un moment donné, il y a des manifestations de Black Lives Matter là, qui dégénèrent parce que la police elle commence à leur castagner la gueule. Et en fait, ça se passe dans la rue du restaurant chinois. Donc, ils accueillent des gens, mais ils sont attaqués aussi par la police. Et ça leur permet de se poser des questions vis-à-vis de leur intégration, enfin, voilà, de tout ce qui s'est passé en Chine, qui s'est passé en arrivant en Amérique, le racisme et tout ça. Bon, enfin, bon, il y a quand même des épisodes assez intenses. Après, le côté fantastique est sympathique. C'est pas plus et j'aime beaucoup en fait les actrices, voilà.
D'accord.
S'il y a un truc intéressant à retenir de la série, je crois que c'est les actrices.
À qui t'es d'accord ou...
Alors ouais. Je trouve que les actrices sont très bien aussi, notamment la sœur, ça a été une agréable
Althea,
surprise,
ouais.
Vraiment ouais, très très forte. Je connaissais pas du tout l'actrice principale, je vous avoue. En revanche, la méchante de la série, je trouve qu'elle pêche un peu, mais aussi c'est parce qu'à chaque fois on la voit 5 minutes dans un épisode, donc je trouve ça chiant en fait. Ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment genre en mode elle est derrière, un peu d'ombre, enfin c'est sombre là où elle est. Oh mon dieu, elle annonce qu'elle va faire ça l'épisode prochain, quoi. Super. Ça c'est vraiment dommage. En revanche, effectivement, il y a des clichés enfin en gros ils ont essayé diffuse en français. Désamorcer, merci.
Oui.
tous les clichés asiates, et ça, je trouve que parfois ils en font un peu trop, par exemple. Mais bon, on peut pas éviter ça, je suppose. Et j'aime bien comment ils ont fait pour le parler chinois et le parler anglais. Franchement, ça aussi, ils ont réussi à bien équilibrer pour le coup. Est-ce que vous trouvez pas que le seul père chinois acteur qu'on voit en ce moment,
c'est
Sima?
Ouais. C'est ça. C'est ça, oui.
Oui, je voulais quand même dire que les arts martiaux sont bien faits. C'est genre, si vous aimez les arts martiaux, wuxia, etc., Kung Fu, c'est pas à mettre de côté. Et le titre Kung Fu est trop nul, je tenais à le dire aussi. Merci.
Oui, mais c'est la marque, ça, donc après...
Voilà.
Alors, en une ou deux phrases, Maxime, Mosquito Coast, on voit la plus partout à la télé depuis le 30 avril sur Apple TV+, qu'est-ce que c'est?
C'est l'histoire d'une famille dont les parents sont anticapitalistes et... anarchiste, qui fuit les États-Unis pour rejoindre je ne sais plus quel pays, j'ai oublié, l'Amérique du Sud. Et on suit donc tout leur périple Vraiment, pour le moment, j'en ai vu que 5 et on est à peine sorti des États-Unis et c'est avec Justin Theroux, donc c'était forcément bien. Et c'est, non, mais en soi, c'est vraiment pas mal. C'est pas toujours comment dire
crédible.
Non, à la limite, ça, le côté crédible, je l'attends pas. Oui, c'est pas, je m'en fiche. C'est plutôt, on n'apprend pas vraiment à connaître les personnages, encore une fois. Et du coup, on a un peu de mal à s'investir, même si les épisodes, à chaque fois, ils sont très, très bien. Il y a vraiment beaucoup de tensions, ils essaient de changer un peu de style à chaque fois. Et non, moi, j'aime bien, je le suis avec plaisir, même si je pense que la fin, ce ne sera pas forcément la grande série de l'année, quoi.
Stéphane, série britannique de Channel 4, We Are Lady Parts. Depuis le 20 mai, c'est tout récent. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien ?
C'est très bien. C'est une série avec qu'on ne voit. Je n'ai même pas dit qu'on ait vu des personnages, autant de personnages féminins et musulmans à la télévision. Donc, pour le coup, il ne faut pas rater ça. Donc, ça raconte l'histoire d'Amina qui se fait recruter par un groupe de punk avec des filles musulmanes et ça va lui changer la vie. Et
parce qu'elle, elle ne l'est pas, excuse-moi, je comprends
pas. Elle est musulmane, mais sauf qu'elle a un problème, elle est assez traditionnaliste dans sa tête, contrairement à ses parents qui sont quand même assez libérés, et elle cherche un mari et à se poser, et voilà. Sauf qu'elle fait de la musique de son côté privé, en fait, elle enseigne la guitare à des enfants. Et en fait, c'est une très bonne guitariste qui est fan de Don McLean. Et c'est donc comme ça qu'elle est repérée par celles qui vont devenir ses futures amies. Et donc, elle a un problème, c'est qu'elle monte sur scène, elle est paralysée et elle vomit. Donc, il va falloir aussi dépasser quand même les petits problèmes de trac. Donc, voilà.
Eh bien, garde la parole pour Law and Order, nouveau spin-off Organized Crime.
Ouais, alors je ne suis...
Le 1er avril, c'est avec qui, surtout ?
Est-ce que Chris Meloni et Tamara Taylor et Dylan McDermott, voilà. Alors moi, je regarde, comment il s'appelle ? Law and Order SVU en dilettante, hein, voilà. Donc, je crois que j'ai plus regardé des épisodes des saisons 20, 21 et 22 que toutes les 20 qu'il y avait précédentes. Donc, je n'ai jamais vu le duo Benson et Stabler ensemble. Donc, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion quand même de se lancer dans Law and Order. Donc, je regarde le crossover avec le lancement du pilote, du premier épisode de Law and Order Organized Crime. Et là, franchement, c'est addictif, quoi. Je suis tombé... Alors, j'aime beaucoup Chris Meloni, hein, donc c'est pour ça aussi que je me suis lancé. Donc, je le regarderai faire tout et n'importe quoi, ce mec-là. C'est bien. Ça raconte beaucoup de choses, quand même, du crime organisé en 2021 qui trafique des vaccins de Covid, anti-Covid, donc c'est assez drôle. Et pour le coup, c'est assez addictif. Tu vois pas les épisodes passer. Enfin, c'est assez intense aussi parce qu'il se passe énormément de choses. Et puis tu vois Olivia Benson et Stabler et t'as envie juste qu'ils se déshabillent l'un l'autre et qu'ils s'envoient en l'air devant toi. Donc voilà, c'est mon kink en ce moment et voilà.
Mais c'est un peu comme Law and Order SVU. Enfin, ça a toujours été, ça a toujours dit beaucoup de la société. Hein.
Oui. Mais sauf que SVU, moi, au bout d'un moment, c'est quand même. Oui. Il faut quand même pouvoir se l'encaisser.
Oui.
Je veux bien regarder la misère du monde, mais j'ai des limites quand même.
Non, mais je comprends.
C'est beau. Maxime, Mare of Easttown sur OCS depuis le 19 avril avec notre chère Kate Winslet, avec Evan Peters, avec Guy Pearce. Est-ce que c'est bien ?
Et Jean Smart surtout.
Non, c'est pas bien.
Ah non, désolé. Ah non.
Ah non. Interesting.
Moi, je m'emmerde comme un rat mort, comme dirait ma mère. En fait, c'est bien produit, c'est bien joué, parce que Kate Winslet, hein, elle était obligée de bien jouer, c'est Kate Winslet. Mais l'histoire, j'ai l'impression de l'avoir vue 100 fois. Encore un thriller autour d'une fille morte. Enfin, on l'a vu avec.
Ah bah c'est pas du tout ça. T'as regardé combien d'épisodes ?
5, 4, 4.
Pourtant, c'est pas possible.
Ah, mais franchement, moi j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois. L'histoire de la famille de Kate Winslet, de mère, ça m'intéresse absolument pas. Je trouve ça chiant. L'intrigue, je la trouve pas très intéressante. Oui, c'est joli à regarder, mais enfin, j'ai besoin de plus, quoi. Surtout sur si peu d'épisodes. Ouais, je sais pas, là, je sais même pas si je vais regarder la fin.
Moi, je te conseillerais quand même de voir le cinquième. Je crois que tu ne l'as pas vu. Donc, voilà.
Okay. Stéphane, est-ce que c'est toi qui as vu Cruel Summer ?
Oui.
C'est Freeform qui devrait arriver, je crois, sur Prime bientôt en France.
Ah ouais ? Eh ben, les pauvres, quoi. Non, c'est pas
c'est
bon.
C'est quoi ? C'est un nouveau Pretty Little Liars ?
Alors, ouais, c'est un mélange de ça. Non, moi, je dirais c'est un This Is Us du crime des ados.
Quoi ? En fait, comment c'est possible ? Déjà, ado et This Is Us, ça va pas
mais
ensemble,
c'est ça.
Quoi.
Mais parce qu'en fait, tu les suis sur trois périodes différentes, sur trois années qui se suivent. Et il se passe des trucs. Donc, c'est les temporalités sont mélangées. Donc, ça change de couleur à l'écran et tout. Et les coiffures. Et
ben, c'est ouais. Certain Reasons Why, quoi.
ouais, c'est ça. Mais c'est un mélange de tous les mauvais teen dramas. Avec des crimes à la con, avec des kidnappings, des gens qui
mentent
et, voilà, et des gens qui s'envoient en l'air alors que tu dis mais mec enfin bon pourquoi tu couches avec elle quoi, mais bon enfin bon voilà et bon enfin bon voilà non c'est enfin j'ai les temporalités m'ont perdu, enfin les histoires les parents tu vois tout venir à 3 km, tu dis non mais c'est pas possible compris. Mais comment on peut écrire un truc pareil,
c'est un produit quoi. C'est un truc On sait qu'est-ce qu'on va avoir devant nous, quoi.
C'est ça. J'ai déjà mes théories sur la suite que je ne regarderai pas, mais j'irai regarder le final pour voir si j'avais raison quand même, parce que je pense a priori avoir déjà trouvé de quoi il retourne. Voilà.
Eh ben, Intergalactique, Sky One depuis le 30 avril.
Oui.
À qui n'a pas vu, c'est quand même bizarre.
C'est honteux.
Ouais, je sais, je l'ai préparé, je l'ai pas encore regardé, mais je sais que je vais aimer, enfin je pense.
Une série de l'espace.
C'est vraiment sympa.
Sauf si c'est vraiment nul.
Bah moi j'ai pas trouvé ça nul du tout. Je trouve ça au contraire très sympathique et c'est de la bonne SF assez dense et avec un message politique quand même pas dégueulasse non plus. Et
alors, c'est des prisonnières qui s'évadent, hein, c'est ça.
Oui, enfin ça c'est
ouais, mais science-fiction. Le début, quoi.
Oui, c'est voilà. De la SF. Oui, elles sont envoyées dans l'espace sur une prison. Dans un vaisseau prison et elles devaient aller sur une planète toute pourrie, et sauf qu'entre temps bah, tout part en cacahuète et elles sont pourchassées après par la Terre qui est en manque de ressources, et il y a une bonne femme sur le vaisseau qui est là mais qui a des secrets et voilà.
J'espère qu'il y a des lesbiennes dans l'histoire parce que du coup ça rendrait les choses plus intéressantes.
Oui,
tu
peux être rassuré, il y a des lesbiennes dans cette
ouais,
prison féminine. Voilà.
Voilà.
C'est sur Sky One, mais oui. sur Peacock aux États-Unis.
Ah,
c'est Peacock. Peut-être. Moi j'avais vu que c'était Peacock. Ouais.
Okay.
Maxime Generation OCS depuis le 12 mars.
C'était trop bien. Pourtant, je me suis lancé dedans sans vraiment y croire. Et dès le premier épisode, j'ai été sous le charme. Enfin, c'est cette chronique adolescente un peu débridée. Enfin, on retrouve un peu d'exubérance. Je me dis que tout n'est pas vraiment comme ça, mais en même temps, c'est tellement crédible que j'avais l'impression d'avoir un Skins de 2021 avec moins de drogue. Et qui traitait beaucoup mieux ses personnages aussi. Donc, enfin, voilà, ça a 8 épisodes, je crois.
Oui. Et pour première partie de la première saison.
C'est ce que j'allais dire. On attend la suite avec vraiment d'impatience parce que c'est génial. C'est très joli.
Elle nous a livré le plus bel épisode de 2021 avec l'épisode 5. Et qui est à la plus grande surprise d'à peu près tout le monde, je crois, écrit par Lena Dunham. Donc,
oui.
Ah ouais.
Si tu vas te terrasser pour te dire, mais putain, j'aime du Lena Dunham, eh ben, il faut regarder l'épisode 5 de Génération.
Eh ben.
Mais j'ai une question vraiment. Quand vous regardez ces séries, donc style Génération, Euphoria, etc., est-ce que vous vous dites, waouh, c'est ça l'adolescence aujourd'hui, ou est-ce que vous vous dites, waouh, j'ai raté mon adolescence, ou autre chose, quoi.
Ah non, moi, pour le coup, c'est comme quand je regardais Skins adolescent, je m'y voyais pas dedans. Enfin, je me disais pas que les mecs populaires faisaient ça. Enfin, c'est vraiment une exagération de la réalité, dans le sens où, ils vont prendre des drogues, mais on les prend pas sous une lumière néon.
Oui, non, mais...
non, mais...
ok.
Le sentiment adolescent est le même partout, c'est juste le décorum à côté qui exagère.
Oui, mais c'est ça, c'est le décorum, moi, qui m'éloigne un peu de tous ces teen shows depuis...
C'est pour ça que l'épisode 5 de Génération est juste le sentiment adolescent à l'état brut, sans décorum. Et c'est vraiment... Moi, je me suis retrouvé dans certains de ces personnages-là, alors que mon adolescence, ça n'a pas du tout été ça, quoi. Et l'épisode 5 m'a vraiment touché en plein cœur, pour cette raison-là. C'est l'adolescence, là, la plus brute et la plus générationnelle possible.
On termine par les nouvelles saisons rapidement. Shrill, saison 3, qui ?
Eh bien, très très bien. La 2 avait été un peu retombée comme un soufflet. Et plus personne ne parlait de Shrill, mais j'ai l'impression qu'avec saison 3, les gens s'y sont un peu remis. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup mieux écrit déjà. Et je crois que c'est la dernière saison parce qu'elle est annulée, là, la série. Mmh. Donc, c'est un peu dommage parce que. Bon, elle
non,
part,
en plus, elle n'a pas été annulée. On lui a donné une dernière saison.
Je sais pas on lui a donné. C'était ça. Ok, pardon, pardon.
C'est pour ça que je ne comprends pas cette fin. La saison est géniale et on a ce dernier épisode qui en fait
qui te fait espérer autre chose quoi
qui te fait espérer autre chose et en qui enfin je sais pas ils ont peut-être essayé d'être négatif d'avoir une sortie plutôt pessimiste mais en fait on comprend pas ça vient comme un cheveu sur la soupe et on se dit ah ben on va regarder le prochain épisode et on va avoir la vraie fin et en fait pas du tout c'est vraiment la fin ok
et c'est sur Canal Plus série c'est ça
oui mm.
Ouais.
Mais en fait, je trouve que c'est un rôle sur mesure pour Eddie Bryant, où elle est un peu, elle est douce, drôle, mais en même temps forte et présente. Et enfin, c'est vraiment top. Et je parle même pas juste de l'aspect les thématiques grossophobie, etc. Bon, ça, c'est évident. Mais ouais, enfin, c'est juste très drôle aussi. Quoi,
mais toute l'intrigue sur sa sexualité dans la saison et le fait qu'elle soit grosse, qu'elle essaye que ça ne la définisse pas, j'avais l'impression que c'était ce que Girls essayait de faire, ce que Lena Dunham essayait de faire, mais en réussi.
Ah.
C'est la fête à Lena Dunham aujourd'hui.
Ben ça,
Autre série, autre saison 3, autre série de Canal+, c'est Pause, Maxime. Est-ce que c'est une très bonne dernière saison?
Ouais. Je pense même qu'on est parti sur la meilleure saison des trois.
Ah ouais.
Ouais, vraiment. Chaque épisode, en fait, on sait que c'est un chant du cygne. Ils nous le montrent, mais ils continuent à raconter l'histoire de leur personnage. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Dans tous les épisodes, t'as envie de chialer, très clairement. Et ils traitent leur personnage bien mieux qu'avant. Moi, j'avais eu beaucoup de mal avec la saison 2, où je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens et qu'on se désintéressait des personnages. Et là, ils arrivent à les remettre au centre, à les remettre ensemble. Et j'adore. Franchement, je suis sous le charme de Pause pour cette dernière saison.
Eh ben, Stéphane.
Oui.
Dernière saison pour Mom, c'est fini. Alors, qu'est-ce que ça donne ?
Ne me spoil pas, s'il te plaît.
Non, mais c'est doux amer parce qu'en fait, ils ont annoncé ça en cours de saison 8. Donc, en fait, ils ont confectionné une fin, à la va-vite. Ça serait, oui, un peu à la va-vite quand même, parce qu'ils ont, conclu quand même pas mal de quelques intrigues. Mais c'est joli, c'est beau. J'en suis encore, tiens, j'ai les frissons rien que d'en parler. Elles vont me manquer, Bonnie et toutes ses amies. Enfin, c'est triste de voir partir des gens auxquels on est attaché de cette façon-là et qui nous ont fait rire et pleurer de façon si intense toutes ces années.
Est-ce que c'est pas ça les grandes séries?
Si, sûrement. Mom a quand même eu un parcours assez compliqué parce que la saison 1, elle a changé, s'est réorientée. C'est ça aussi la beauté des saisons longues et des saisons, enfin, des séries qui durent. Mais si, peut-être. Alors, Mom sera peut-être une grande série, peut-être pas encore là aujourd'hui parce qu'on s'en rend pas compte encore, mais dans quelques années, on jettera un coup d'œil sur Mom et on se dira ouais, ça avait de la gueule et c'était vraiment important et intéressant et vital de raconter ces histoires-là de ces femmes-là de 50 ans, 40 ans qui se remettent dans le droit chemin, qui acceptent leur passé et leurs erreurs et qui avancent vers l'avenir en se serrant les coudes et avec le sourire. Quoi.
Moi, il y a.
C'est pas ce que tu dis.
Il y a quelque chose de très. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est très drôle. Enfin, pas pour elle, mais j'ai vu une photo de Mom au début. Enfin, au début, non, ça devait être à la saison 4 ou 5. Et il y avait Anna Faris. Et j'avais complètement oublié qu'elle était dans la série.
Ah ouais!
Mais en fait, elle manque pas la dernière saison.
C'est ça, en fait, la dernière saison, elle fait ça de manière tellement organique qu'on a l'impression qu'il n'y avait que elle depuis le début.
Et... Bah, tant mieux en fait.
Ah oui, tant mieux.
Oui, c'est ça.
C'est pour moi la grosse réussite de la saison 8, c'est d'avoir fait oublier qu'au départ il y avait un duo et que là on est vraiment face à un groupe et avec tout ce qu'a dit Stéphane, un groupe dont on va se souvenir, un peu comme les Golden Girls.
Oui.
Handmaid's Tale, saison 4, qu'est-ce que ça vaut sur OCS? Qui veut en parler rapidement?
Bah, moi je veux bien.
Que si c'est pour dire du mal. Hein.
Ben, je vais dire, oui, je vais dire du mal, Stéphane, ne t'inquiète pas.
Bon, ça va.
Mais au début de la saison, j'ai eu de l'espoir. Je me dis, on retrouve June avec les Handmaids en fuite. Et je me dis, cool, on va avoir une vraie... une vraie fuite pendant toute la saison où elles vont se battre et où on va voir June complètement péter un câble et devenir très méchante. Typiquement, est-ce que on doit être capable de tout pour sauver sa fille? Et en fait, à chaque épisode, ils partent dans une direction différente. Ils nous la remettent en prison, ils en tuent quelques-unes, ils la remettent dans un autre groupe. Et là, j'ai vu l'épisode 6 ce matin. Et là, ça s'accélère, mais j'ai l'impression que j'ai loupé une saison. Donc en fait, je comprends pas trop la série, je comprends pas trop les scénaristes qui nous ont étiré tout ça pendant la saison 2 et 3, qui nous l'ont fait revenir de manière en plus super factice. On t'offre une opportunité de t'échapper 3-4 fois. Tu le fais pas parce que ta fille est enfermée dans un endroit que tu ne connais pas, dans un pays où tu ne peux même pas te déplacer sans qu'on te tire à vue. Et elle y retourne sans savoir où est sa fille. Enfin, je trouve que c'est stupide. Ce personnage est devenu stupide et c'est vraiment dommage. Et là, t'arrives à l'épisode 6 et il se passe ce qu'il se passe. Je vais pas spoiler. Hein. On change totalement de braquet. On n'est plus sur la Evil June. On n'est plus sur celle qui va entrer dans la résistance, on est sur totalement autre chose. Vraiment, je ne comprends pas. Je comprends pas où ils essayent d'en venir. J'ai l'impression qu'ils essayent d'écrire 3 saisons en même temps, mais à partir de la même histoire. Et du coup,
Ouais, en fait, c'est encore une série qui a trop duré, quoi.
Oui, clairement, parce que.
Bah, complètement.
Mais ce qui est dommage, c'est que cette saison, l'une des très bonnes choses, je trouve. Enfin, moi, c'est ce qui me fait tenir, c'est que on voit autre chose que les Handmaids, on voit autre chose que le Canada. On voit la résistance, on voit qu'en fait c'est un pays en guerre. On n'avait pas vraiment l'impression jusque-là que c'était vraiment un pays en guerre et que ils étaient attaqués de sur toutes leurs frontières et qu'il y avait des terroristes. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui sont lancés et qui sont super intéressants où on pourrait faire une série géopolitique aussi. Ce qu'ils ont tenté par le passé avec le personnage, je sais plus le nom de l'acteur, celui qui jouait dans Parenthood. Bref,
oui, enfin Joel dans Parenthood, mais oui, j'ai oublié le nom là.
Il tente des trucs un peu géopolitiques et en fait, il te balaye ça d'un coup. Enfin, je comprends pas ce qu'ils ont dans la tête à avoir plein de bonnes choses et à juste. Ils se disent en fait, on va toutes les écrire et on va toutes les jouer.
Ouais. Mais c'était toi, Maxime, qui avait dit en fait à ce point-là. Vu où on en est, autant tuer June, oui. Ou un truc comme ça. C'était toi, oui. C'était toi, hein. Ouais, il me semble aussi. J'ai ri, mais j'étais un peu d'accord, mais bon. Ben,
pour moi, c'est le seul moyen, en fait, de se détacher de ces types d'écriture où ils la font changer d'avis tous les épisodes et de vraiment regarder à travers les autres personnages les situations, quoi. D'un côté, Gilead et d'un côté, le Canada.
Ouais.
Et June, en fait, elle est là au milieu. Forcément, il passe du temps sur elle parce que Elizabeth Moss, elle est géniale, on est d'accord. Mais en fait, au final, le personnage est une très mauvaise idée. Enfin, c'était une très bonne idée en première saison, en deuxième saison à la limite, mais ils auraient dû la tuer et passer à autre chose. Ou alors qu'elle passe au Canada, elle s'échappe et on la voit plus.
C'est clair. On passe à c'est pas les opportunités qui manquaient, hein, pour le coup.
C'est ça, en fait. C'est ça que je comprends pas. Enfin, c'est quoi cette quête de sa fille qui, en plus, maintenant, ça fait 4 épisodes qu'elle nous dit « elle m'aime pas, elle me reconnaît pas ». Bah, meuf, en fait, si tu veux la sauver et tu comprends très très bien que tu ne peux pas la sauver comme ça, eh bien, passe de l'autre côté et, je sais pas, tu retournes le gouvernement du Canada, tu fais tout pour avoir un raid pour sauver sa fille. Enfin, je sais pas, le personnage est complètement
stupide. Ouais, donc ça a plus d'intérêt, quoi, à regarder, quoi.
Il y aurait une saison 5 ?
Oui. Enfin,
je crois que c'est la dernière, la 5.
Non, je crois qu'ils avaient un plan en 6 ou 8 saisons.
Oh, bon, oh
my god.
Ouais.
D'accord. Ouais. En fait, allez. Je trouve ça dommage aussi où, entre guillemets, on a quelques éléments de la réalité, des autres États comme le Canada par rapport à Gilead. Mais je trouve que c'est dommage qu'on en voit aussi peu, en fait. J'aimerais voir d'autres avis.
Bah, demande une série dérivée.
Et c'est ça.
Non, mais. Il devrait le dire, quoi. Enfin, dans la saison 1, il y avait quand même une délégation. On a vu genre un tout petit peu, on a deviné un petit truc et ça a jamais été exploité, quoi.
Et le problème de cette saison aussi, c'est que ça te fait remarquer que Gilead, en tant que tel, dans ce système-là, existe que depuis très peu de temps. Et j'ai l'impression tous les personnages qui sont pro-Gilead, ils sont tellement à fond dedans que je me dis, mais attendez, mais en 3 ans, ils ont réussi à faire tout ça, à construire tout ça.
je te rappelle que Trump, il a quand même construit pas mal de choses dans l'espace de 4 ans, quoi. Donc, c'est pas si choquant que ça, quoi.
Mais on défait beaucoup de choses, surtout.
Oui, il a défait.
Non, mais il a quand même construit un culte de la personnalité. Et il se prépare pour faire autre chose par la suite. Il se prépare à faire Gilead, quoi.
Ça, d'accord. Mais enfin, on en est quand même on est dans un monde où ils ont réussi à refaire des bâtiments, refaire des prisons qui n'existaient pas auparavant. En 3 ans et à retourner la tête de Aunt Lydia au point qu'elle est dans un monde mais totalement ailleurs. Enfin,
je comprends.
J'ai l'impression qu'ils ont voulu trop précipiter les choses, pas assez expliquer d'autres, et on se retrouve là à regarder la série. Ouais, c'est sympa, ça passe le dimanche soir, mais.
Et c'est toujours du torture porn ou pas du tout?
Oui.
Parce que bon, ouais, d'accord.
Bah, sur les deux derniers épisodes, il n'y en a pas du tout. Mais alors sur les 4 premiers, oui.
Et enfin, que serait un épisode sur le visionnage si on ne terminait pas par une série française? HPI, Stéphane, tu voulais en parler? Alors vas-y. Est-ce que ça mérite les 10 millions?
Je serais pas d'accord. Même si j'ai pas vu, je serais pas d'accord.
Bah, alors clairement que non, ça ne mérite pas les 10 millions. Mais je comprends pourquoi ça a autant fonctionné en fait. Il y a Audrey Fleurot, c'est du policier, c'est un personnage qui sort de l'ordinaire. Mais enfin, tout ça, ça a été fait il y a 15 ans par les séries américaines qui cartonnaient d'ailleurs, qui faisaient presque 9 millions comme The Mentalist à cette époque-là. Mais ça n'invente rien, quoi. Et j'ai lu des interviews complètement lunaires des scénaristes qui pensent qu'ils ont inventé un genre, quoi. Enfin, c'est à se taper la tête contre un mur, quoi. Enfin, c'est sympathique, hein. Audrey Fleurot s'amuse, mais elle joue comme une quiche, mais elle s'amuse, ça se voit. Bon, bref, ok, je suis content pour toi. T'es devenu une superstar, ok, super. Mais enfin, aucun intérêt. Et puis en plus, ils t'écrivent ça à la truelle. Enfin, les deux personnages principaux, ils s'aiment pas. Et puis, tiens, le mec, il a un intérêt amoureux avec la chef du commissariat. Et puis, tiens, au dernier épisode, ça serait quand même peut-être plus intéressant qu'il ait un intérêt amoureux avec le personnage principal, non? Ah oui, mais tiens, bon, on va le faire. Ben voilà. Bon, ok, d'accord. Mais non, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui en 2021 dans une série, quoi. Et ça fonctionne. C'est choquant. Enfin, mais je comprends, hein. Il y a tout pour que ça cartonne et ça cartonne. C'est ça aussi qui me désespère. Mais bon, on n'est pas prêt d'avoir de bonnes, très bonnes séries différentes à la télévision française, surtout sur TF1, quoi.
Eh bien, merci Stéphane.
Avec plaisir.
Terminé là-dessus.
Ça, je vais me faire pas des amis parce que j'ai déjà osé critiquer 2-3 épisodes. Quand j'ai vu, je me suis fait lyncher. Ça aussi, mon Dieu. Non mais les fandoms, c'est vraiment une catastrophe. Hein,
tu peux pas dire qu'il y a un fandom de HPI.
Non, mais, oui, moi c'est
ça. Je suis allé sur un forum d'HPI.
Je te jure que si. Et vous allez être surpris, hein. Mais enfin bon, voilà.
On n'a pas parlé d'Elston, pardon.
C'est parce que ça n'a pas d'intérêt à qui. C'est tout.
Ah oui, j'ai loupé C'est vrai, j'ai loupé la ligne. Elston. Bah alors Alston, qu'est-ce que ça vaut? C'est sur Netflix depuis le 14 mai.
C'est une mini-série, donc voilà, c'est sympa. Je trouve qu'Ewan McGregor joue très bien. J'ai appris des choses, ça chante un tout petit peu, donc voilà, j'ai trouvé ça très beau. Franchement, esthétiquement, j'ai trouvé ça très beau.
Oui,
après, c'est une déchéance d'une personne, et voilà quoi. Enfin...
En fait, c'est pas original, mais c'est bien fait.
Non, voilà.
Mais c'est du
exactement.
Ryan Murphy, quoi. C'est toujours
comme
des promesses.
Comme tout Ryan Murphy.
Mais ouais, mais d'accord, mais c'est des promesses.
Il y avait quoi comme promesse? Attends, c'est pas vide, je suis désolée.
Mais il produit, là, elle n'est pas derrière non plus.
Mais si, mais c'est une production Ryan Murphy, c'est calibré, c'est toujours la même chose et il n'y a rien qui dépasse. Tout ce que fait Ryan Murphy sur Netflix, ça pue du cul, point.
Non, mais alors 95% ok, mais je ne suis pas d'accord parce que d'habitude, il y a un côté sensationnel dans cette série que je déteste. Et franchement, dans Alston, je trouvais qu'il y avait une certaine réserve. Voilà.
Ah ouais, putain,
qui correspond au personnage d'Alston d'ailleurs, visiblement, enfin, d'après ce qui est présenté.
Merci. Bref. À qui?
Bah, de rien.
Merci Maxime.
Mais de rien aussi.
Et merci à tous. On se retrouve encore pour quelques émissions et ensuite, ça sera des vacances bien méritées, surtout pour nous. À bientôt sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes de podcast, partout. C'est Alcozer, on est toujours là. Merci, prenez soin de vous et de vos séries. À bientôt.
Au revoir.
Bye.